Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Bernard de Cotigny.
En ce lundi de Pâques, le pape François a récité le Regina Caeli, place Saint-Pierre. Il nous donnait encore des conseils, et ce conseil en particulier, cette semaine, lisez les passages de l'Évangile sur la résurrection, cela vous fera beaucoup de bien. Nous parlerons aussi avec le frère Dominique Joly, franciscain, aumônier de la maison d'arrêt de Strasbourg, de la Semaine Sainte et de Pâques en milieu carcéral. Et puis à l'approche de la double canonisation de dimanche prochain, nous écouterons le cardinal Poupard nous parler longuement de Jean-Paul II, après avoir écouté à nouveau la question qu'il avait posée lors de la messe au Bourget le 1er juin 1980. « France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême ?» Au lendemain de la messe du dimanche de Pâques et du message Urbi et Orbi, le pape François a donc retrouvé des dizaines de milliers de pèlerins ce lundi place Saint-Pierre pour la prière du Regina Caeli, par un temps toujours aussi printanier. Comme pour toutes ses prises de parole durant la Semaine Sainte et le jour de Pâques, le pape s'est fait paternel, prodiguant de précieux conseils pour vivre en véritable chrétien. Jean-Baptiste Cocagne.
En cette semaine de Pâques, a conseillé le pape, cela nous fera du bien de prendre l'Évangile et de lire tous ces chapitres qui parlent de la résurrection de Jésus. Cela nous fera beaucoup de bien de prendre le livre, chercher les chapitres et lire cela. Et cela nous fera du bien cette semaine, a-t-il ajouté, de penser à la joie de Marie, la mère de Jésus, de la même manière que sa douleur fut intime et transperça son âme, ainsi fut sa joie intime et profonde. Et comme pour les disciples, poursuivait le pape, laissons cette joie pleine de stupeur s'imprimer dans nos cœurs et transparaître dans nos vies, irradier nos pensées, nos regards, nos gestes et paroles. Et ce n'est pas un simple maquillage, a-t-il aussitôt ajouté, cette joie vient de l'intérieur, d'un cœur immergé dans la source de cette joie, comme celui de Marie-Madeleine qui pleura la perte de son Seigneur et qui ensuite n'en croyait pas ses yeux de le voir ressuscité. Quand nous faisons cette expérience, a conclu le pape, nous devenons des témoins de la résurrection parce que, d'une certaine manière, nous ressuscitons nous aussi. Et nous sommes alors capables de porter un rayon de cette lumière du ressuscité dans les diverses situations de la vie, les moments heureux en les rendant encore plus beaux et en les préservant de l'égoïsme, et les moments douloureux en apportant sérénité et espérance.
Et au terme du Regina Caeli, le pape François a adressé un salut à tous les pèlerins venus d'Italie et du monde entier pour prendre part à cette prière. Il leur a conseillé une fois encore de se plonger décidément dans ces récits de la résurrection pour trouver cette joie du Christ ressuscité. Dimanche, dans son message Urbi et Orbi, le pape a lancé un appel à la paix en différentes régions du monde, ainsi l'Ukraine, le Nigeria, le Soudan du Sud ou encore la Terre Sainte, mais aussi la Centrafrique et la Syrie. Dans la cathédrale de Bambari, au centre de la Centrafrique, à 300 km de Bangui, le père Thibault appelait dimanche au calme les milices qui s'approchent de cette ville encore épargnée mais menacée. Les milices anti-Balaka, composées de jeunes chrétiens, affrontent l'ex-rébellion Séléka pro-musulmane à Grimari, à 80 km seulement des portes de la ville. Et en Syrie, le jour de Pâques, le président Bachar al-Assad se rendait lui dans la cité chrétienne de Maloula, récemment reprise par l'armée syrienne, qui doit faire face à une contre-offensive rebelle à Homs, cette fois dans le centre du pays. La page Facebook de la présidence syrienne a publié une photo d'Assad aux côtés d'un dignitaire chrétien tenant ce qui semblait être des fresques endommagées de la Vierge et de Jésus. Chacun appréciera. Au Vatican, en tout cas, le pape François a demandé aux belligérants syriens l'audace de négocier la paix, désormais attendue depuis trop longtemps, et de permettre l'accès aux aides humanitaires. L'image avait frappé l'année dernière. Le pape François, nouvellement élu, célébrait la messe de la scène du Seigneur le jeudi saint dans une prison avec des mineurs. Un geste fort envers qui passe les fêtes de Pâques en prison. Nous avons voulu savoir comment les détenus vivent ce temps fort de l'année liturgique et ce que représentent la passion et la résurrection du Christ. Frère Dominique Joly, franciscain, est aumônier de la maison d'arrêt à Strasbourg. Il y officie depuis de nombreuses années et pour lui, cette semaine sainte au milieu des prisonniers est toujours un moment particulier et fort.
Les détenus, bon, c'est vrai que certains, peut-être, ne pratiquent pas lorsqu'ils étaient à l'extérieur, et peut-être qu'ils ne pratiqueront pas non plus lorsqu'ils seront retournés à l'extérieur, Mais les preuves de la détention, en tout cas, ça suscite chez eux certaines réflexions, certaines questions. Et bien sûr, lorsqu'on parle de la passion, de la mort du Christ, de sa condamnation, c'est des choses qui résonnent très très fort pour eux. Et donc, nous essayons, bien sûr, en leur ouvrant un espace aussi de liberté, d'expression, dans leur foi, nous leur permettons de vivre ces célébrations, oui. À partir de, justement, des textes qui nous sont proposés par la liturgie, nous leur parlons de la question de la violence. Nous essayons au moins de les ouvrir à ces questions-là et à réfléchir avec eux la violence, la vengeance ou alors, justement, la dignité, l'acceptation de la peine, qui n'est pas une résignation, hein, mais c'est un petit peu des thèmes que nous essayons de développer, d'approfondir avec eux en cette semaine. Oui.
Quand vous dites « nous essayons d'approfondir avec eux tous ces thèmes », concrètement, comment ça se passe? Est-ce que vous les rencontrez pendant la semaine? Vous les rencontrez individuellement, en groupe?
Alors nous avons plusieurs moyens de les rencontrer. C'est d'abord personnellement, bien sûr. Souvent, ça se fait parce qu'on a eu la demande de l'un d'eux de venir le rencontrer, de pouvoir prendre du temps pour parler. Ou bien alors, il y a les célébrations. Ou alors, il y a des groupes aussi de réflexion à partir de textes bibliques. Enfin, il y a différentes possibilités de se rencontrer pour un petit peu approfondir ces questions-là. Ouais.
Que vous disent les détenus qui acceptent de vous rencontrer?
Dans une prison, je pense que finalement, c'est un peu comme à l'extérieur. Il y a des gens qui sont très, très touchants. C'est-à-dire que même s'ils sont dans une situation très, très difficile où ils doivent se défendre, etc., ils sont en but à une affaire, hein, il faut faire face avec les avocats, etc. Mais chez certains, peut-être c'est rare, hein, mais je pense qu'il y a une véritable démarche de foi, une véritable démarche de conversion où, justement, on découvre justement la figure du Christ, et l'exemple qu'il a donné, le don de soi, le service, le pardon. Le pardon, c'est très dur, évidemment. Mais je pense que c'est peut-être pas, je dirais, pour la grande majorité, mais pour certains, oui.
Vous célébrez Pâques en prison. Vous avez certainement célébré Pâques en dehors de la prison. Quelle différence y a-t-il au-delà du fait qu'évidemment, vous êtes dans un espace clos et des conditions de détention?
Pour moi, célébrer à la prison, ça a été la première chose que j'ai ressentie lorsque j'ai été nommé, donc que j'ai pu célébrer à la prison, c'est que c'est des célébrations beaucoup plus vivantes que dans n'importe quel autre lieu ou n'importe quelle autre paroisse, parce que les gens sont très très participants, ça c'est sûr, et ils ont une fraîcheur, ils ont une spontanéité très très grande, mais dans beaucoup de lieux, les célébrations sont un peu formelles, tandis que là, non, les gens réagissent, ils s'expriment très très spontanément, ça m'a vraiment frappé, et je trouve ça très très précieux.
J-6 pour la double canonisation des papes Jean XXIII et Jean-Paul II. Jusque dimanche, nous vous proposons d'entendre à nouveau la voix de ces deux hommes qui vont être faits saints. Ce lundi, la voix et le message de Jean-Paul II lors de son premier voyage en France où il s'est rendu 8 fois, 7 fois en métropole et 1 fois à La Réunion. C'est au cours de son premier voyage en France, lors de la messe au Bourget le 1er juin 1980, qu'il demandait aux Français « France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême ?»
Aujourd'hui, dans la capitale de l'histoire de votre nation, je voudrais répéter ces paroles qui constituent votre titre de fierté. Fille aînée de l'Église. Permettez-moi, pour conclure, de vous interroger. France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême? Permettez-moi de vous demander, France, fille de l'Église et éducatrice des peuples, es-tu fidèle pour le bien de l'homme à l'alliance avec la sagesse éternelle? Pardonnez-moi cette question. Je l'ai posée comme l'ont fait les ministres au moment du baptême. Je l'ai posée par sollicitude pour l'Église dont je suis les premiers prêtres et les premiers serviteurs. Et par amour pour l'homme, en France et partout, pour l'homme dont la grandeur définitive est en Dieu.
Et le cardinal français Paul Poupart a étroitement collaboré avec le pape Jean-Paul II. Il était alors président du Conseil pontifical pour la culture. Nous parlons des années entre 1988 et 2007. Mais avant cela, lors du pontificat de Jean XXIII, le cardinal n'était encore qu'un abbé qui travaillait pour la section française de la secrétaire d'État. Il se rappelle de ses souvenirs avec les deux papes devenus saints, à commencer par sa première rencontre avec le bon pape Jean, il y a plus de 50 ans.
Le pape te veut, alors je descends. Et le soir, le Vatican, c'était désert, il n'y avait personne. Je suis arrivé dans la bibliothèque privée de Jean XXIII qui m'attendait et qui me dit « Filio bello », intraduisible en français. Alors, il connaissait bien sûr mon histoire, mais il me l'a fait raconter. Et puis, quand ça a été fini, il s'est levé, il m'a pris les mains, puis il m'a dit « Tu es un jeune prêtre ?»« Oui, je suis un vieux pape. »« Oui. Si le vieux pape te demande de l'aider, tu veux servir l'Église ?»« Oui, tu ne vas pas lui refuser. » Voilà donc ma première rencontre.
Et qu'est-ce qui vous a marqué à ce moment-là? Qu'est-ce que vous retenez?
Sa bonté. Enfin, écoutez, moi, j'étais un jeune prêtre tout à fait inconnu. Donc, j'ai été profondément ému et je le reste. Voilà.
C'est son style qui vous a marqué, sa façon d'être aussi direct?
Le style, c'est l'homme. C'est-à-dire qu'au début, donc, c'était le début de son pontificat. Et donc, le pape fait la tournée des popotes. À la fin, il nous réunit tous de la secrétaire d'État. Et il a dit, ma carissimi, chers amis, il a dit que vous travaillez à la secrétaire d'État. Alors vos parents, vos amis, ils croient que vous voyez le pape tous les jours et vous ne voulez pas mentir. Mais... Alors pour vous éviter de mentir, de faire un pire mensonge, vous pourrez dire maintenant quand le Saint-Père est venu dans mon bureau.
Vous, de son pontificat, en l'ayant vécu, qu'est-ce que vous retenez?
C'est le concile qui a été une annonce totalement inattendue et qui a engagé l'Église, on peut bien le dire, dans une nouvelle voie qui ensuite, avec les successeurs, le pape Paul VI, dont j'ai été longtemps le collaborateur, puis le pape Jean-Paul II, dont j'ai été plus longtemps encore le collaborateur, puis le pape Benoît et aujourd'hui le pape François, tout ça s'est déclenché par le pape Jean XXIII. C'est lui qui a mis en route tout un processus. Vous voyez, notre pape dit toujours qu'il faut aller vers la périphérie. Donc, le premier surnom que les Romains ont donné au pape Jean, il me rappelle comme c'était d'hier, c'était Giovanni Fuori le Mura, donc Jean hors les murs. Je me rappelle cette stupeur, le pape marchant dans les rues. Et puis ensuite, les visites pastorales. Aujourd'hui, on est tout à fait habitués. C'était presque une émeute, enfin, quand le pape est allé dans les paroisses. C'était, voilà. Et donc, ce souvenir que je garde du pontificat, c'est donc ça. C'est donc un pape qui sort du Vatican et qui appelle les évêques de l'Église entière à partager avec lui la charge de l'Église, parce qu'on dit toujours la charge de toutes les Églises, avec le concile réuni, va dire explicitement que si chaque évêque, naturellement, est responsable directement de son diocèse, il participe aussi à la sollicitude de toutes les Églises. Donc voilà donc tout ça pour moi, ce que je garde donc du pontificat de Jean XXIII. Et puis le lendemain de sa mort, je suis appelé ma première interview à la télévision, donc en juin 1963. 5 colonnes à la une, donc une émission célèbre. Et je prends un taxi. Le chauffeur de taxi, voyant que je sortais de la secrétaire d'État, me dit « Papa Giovanni, Papa Buono, Papa Santo ». Le chauffeur de taxi me dit « Pape Jean, Pape Bon, Pape Saint ». On a attendu quelques années pour le déclarer officiellement, mais pour le bon peuple, c'était évident. Et c'était évident aussi pour les évêques, je me souviens. Donc plusieurs se sont levés au concile pour demander qu'on le proclame saint par acclamation. Alors Paul VI prudent a voulu suivre la procédure. Pape saint, si vous voulez, c'est une évidence.
Vous parlez de Jean hors les murs. On compare déjà François, le pape actuel, avec Jean XXIII. Est-ce que vous partagez cette comparaison?
Je vais vous dire, il y a quelques mois, je suis retourné à Bergame. J'en ai profité pour rendre visite à Don Loris, comme je l'appelle toujours. Donc, le secrétaire du pape Jean XXIII, qui a 98 ans, il m'a reçu pendant plus d'une heure. Et de lui-même, il me dit « Papa Francesco et Papa Giovanni Redivivo ». Donc, en bon français, le secrétaire particulier du pape Jean XXIII, me dit de lui-même, le pape François, c'est le pape Jean XXIII redevenu vivant. Alors écoutez, je ne peux pas avoir de source plus authentique que je partage, bien entendu.
15 ans plus tard, on est en 78, Jean-Paul II est élu pape.
Quand il est élu pape, je suis recteur de l'Institut catholique de Paris. Dès le premier instant, si vous voulez, sans savoir ce qui se passerait, mais je savais qu'il se passerait des choses extraordinaires. Le premier instant, n'ayez pas peur, hein, et puis chose tout à fait extraordinaire, l'année d'après, donc le 1er juin 1980, je l'ai reçu donc à l'Institut catholique dont j'étais recteur. Il avait été invité par l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, comme il avait le sens du geste, avant d'honorer la culture tout court, il a voulu honorer la culture catholique. Et je l'accompagne le lendemain à l'UNESCO, et il fait ce discours quand il leur dit « Moi, évêque de Rome et fils de cette nation que ses puissants voisins avaient rayée de la carte et qui n'a dû sa survie qu'à la culture, cette force qui, comme un fleuve souterrain, parcourt les étendues de la conscience jusqu'à ce qu'un jour, enfin, elle éclate au grand jour. » Et à la fin, le pape termine en disant « Homme de culture, vous avez un pouvoir, vous êtes plus puissant que tous les puissants. » Il venait de dire « Un pouvoir ne tire sa légitimité que dans sa capacité d'incarner la culture de la nation. » Or, le pouvoir de sa Pologne le persécutait. Et donc, il dit aux hommes de culture « Vous êtes plus puissants que toutes les puissances. » Et son dernier mot a été « Continuez !» Donc, vous comprenez en m'écoutant que je garde ce souvenir d'une géant de la foi, comme on l'a appelé, et d'une force extraordinaire. La balle mortifère du 13 mai qui voulait le faire taire n'a pas réussi, n'a pas changé d'un pouce. Il a continué comme avant.
Et ensuite, vous êtes allé au Vatican pour travailler avec lui. Vous étiez à la tête du Conseil pontifical pour la culture.
La culture qu'il m'a fait créer. Et je me rappelle, je ne sais combien de déjeuners de travail, toujours autour du thème de la culture. Et toujours avec une grandeur, si je puis dire, de vision. Et en même temps, une limpidité d'expression et un courage de décision, toujours. Et donc ça a commencé comme ça, le premier déjeuner de travail, il m'avait fait venir pour succéder au cardinal Koenig, le dialogue avec les non-croyants. Et il me dit « Alors, comment vous voyez la chose ?» Et moi je lui dis « Je la vois pas. Oh !» Alors je lui dis « Vous savez que j'ai été longtemps le collaborateur de Paul VI ?»« Oui, mon grand prédécesseur. » J'étais en face de lui à table, je prends le couteau, la fourchette, et je lui dis « Vous vous rappelez sa première encyclique ?»« Oui, Ecclesiam Suam. » Où le pape dit « L'Église se fait conversation, l'Église se fait dialogue. Le premier cercle, ceux qui nous sont les plus proches, parce que je dis pour dialoguer, il faut être deux et avoir un sujet, un terrain commun, une préoccupation commune. Alors le premier cercle, donc les chrétiens qui ne sont pas catholiques, c'est Jésus, c'est l'Évangile. Le second, les religions, tous ceux qui sont religieux mais qui ne sont pas chrétiens, c'est donc Dieu. Et la troisième, alors il avait compris avant que je termine, eh bien j'ai dit « Très Saint-Père, alors là, c'est la même chose, sauf que c'est l'inverse, puisque vous me demandez de dialoguer avec ceux qui veulent notre perte. Ça fait partie de leur programme de travail, puisque nous sommes l'opium du peuple. » Alors, il dit, alors je réfléchis tout haut devant lui, j'ai dit, je ne vois qu'un terrain commun, c'est l'homme, et le terrain, la culture. Il s'est soulevé de son siège, et avec son accent inimitable, il dit, l'homme et la culture. Donc, sans le savoir, j'avais mis en route le processus qui a fait créer le Conseil pontifical de la culture.
Et comment c'était de travailler avec le pape Jean-Paul II ?
Eh bien, travailler avec le pape Jean-Paul II, écoutez, j'allais dire, je n'ai pas été le ministre de Napoléon, mais je pense que ça devait être un peu comme ça. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui, comme tous les grands hommes, avait une grande vision, et pour le détail, ça ne l'intéressait pas. Comme le général de Gaulle, il ne s'occupait pas de l'intendance. C'était vraiment la vision.
Et qu'est-ce que vous retiendrez de l'homme Jean-Paul II ?
Ce que je retiens de l'homme, de Jean-Paul II, c'est ça. C'était un homme de prière. J'ai dit quelque part, c'était un puits de prière. Les souvenirs les plus impressionnants que je garde, c'est la messe qu'on célébrait dans sa chapelle privée. Alors quand vous arriviez, il était plongé dans la prière.
Et de son pontificat ?
Alors son pontificat est entré dans l'histoire parce que si l'on regarde le scénario du monde, il a été l'une des forces agissantes, l'une des forces de dissolution donc de l'Empire soviétique. Et puis à l'intérieur de l'Église, on pourrait dire que c'est son premier mot qui n'a cessé de retentir, « N'ayez pas peur ». Ce « n'ayez pas peur » a eu ses effets, donc aussi bien dans le bloc soviétique, mais aussi dans l'Église. « N'ayez pas peur ».
Ainsi prend fin ce magazine. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.radiovaticana.va et sur Facebook à Radio Vatican en français. Merci en tout cas de nous avoir suivis et on se retrouve demain, où que vous soyez.